France Inter.
Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Diderot et le combat de l'encyclopédie. Au départ, en 1745, il ne s'agissait que d'une simple traduction, traduire un dictionnaire anglais en deux tomes. Mais c'était mal connaître Denis Diderot et son complice Jean Leron d'Alembert, deux hommes attachants et alors quasi inconnus. Mal assorti en apparence, le mathématicien d'Alembert et Diderot, traducteur et romancier, touche à tout de génie, forment rapidement un tandem de choc. De l'énergie et du courage, il leur en faudra, car leur ambition est colossale. Publier pour la première fois une encyclopédie dont le but est de recenser dans un seul livre tout le savoir humain et de le mettre à la portée de tous. Avec ses 140 contributeurs, l'encyclopédie, forte de 74 000 articles en 28 volumes, connaîtra au bout du compte un immense succès. Mais à quel prix ? Inédite et titanesque, cette aventure éditoriale à la fois scientifique et humaniste fut semée pendant 20 ans de grandes joies, mais aussi d'engueulades, de calomnies, d'interdictions royales et même d'excommunications papales. Diderot en sortira épuisé et heureux, sans imaginer que son encyclopédie allait devenir le symbole du siècle des Lumières.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Marie Lecat-Siomis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure émérite de littérature française du XVIIIe siècle et ex-présidente de la Société Diderot. En 2017, vous avez écrit avec d'autres auteurs un livre, Oser l'encyclopédie, un combat des Lumières. L'encyclopédie, c'était donc vraiment oser de l'écrire au XVIIIe siècle ?
On s'en est rendu compte petit à petit. Au départ, vous l'avez dit, c'était simplement la traduction d'un ouvrage anglais, assez bref, deux volumes. Et c'était surtout donc pour les libraires, c'est-à-dire les éditeurs de l'époque, qui s'étaient associés pour le faire, c'était surtout une belle opération financière, puisque cette encyclopédie anglaise avait eu beaucoup de succès.
De Diderot, on connaît surtout les œuvres romanesques, Jacques le Fataliste, La Religieuse, Le Neveu de Rameau, mais il est connu quand même aussi pour l'encyclopédie. C'est étonnant ce personnage qui est à la fois littéraire, un peu scientifique, c'est un homme des Lumières, c'est ça ? Parce qu'il n'est pas très connu encore en 1747 quand commence l'histoire que je vais raconter.
Tout à fait, vous avez raison, très peu connu. Il a cependant, à peu près vers la même époque, il a vécu essentiellement de traductions, vous l'avez dit, traductions de grands ouvrages anglais en français, dictionnaires de médecine, dictionnaires de histoire de la Grèce, etc. C'est comme ça qu'il a été d'ailleurs connu par ses libraires. Il a aussi écrit et publié à cette époque-là des ouvrages de mathématiques, parce qu'il espérait qu'il serait un jour un grand mathématicien.
Il savait tout faire.
Ouf, je n'irai pas peut-être à dire tout faire, mais en tout cas, tout penser, c'est certain. D'autre part, il a écrit, un petit peu avant d'entrer dans l'encyclopédie, des pensées philosophiques qui ont été publiées, mais anonymement, il n'a pas mis son nom. Et en 1749, la lettre sur les aveugles,
oui,
à l'usage de ceux qui voient,
à être emprisonné.
Voilà.
Et parlez-nous aussi de d'Alembert, qui est cet homme, donc un mathématicien, est à l'Académie des sciences.
À l'Académie
aussi.
Des sciences, plus tard il sera élu également à l'Académie française, qui est assez rare, il a la double attache, c'est considéré comme un grand philosophe de son temps, il est considéré comme un très grand mathématicien, lui-même auteur de la fameuse Précession des équinoxes, un de ses plus célèbres ouvrages.
Et le contexte de l'époque, donc on est sous la monarchie, bien sûr, c'est Louis XV qui est roi
à ce
moment-là.
XV, oui.
On est dans une période, c'est d'ouverture
Alors, la guerre,
culturelle
la guerre
est... et religieuse
Oui, alors il y a souvent, n'est-ce pas, des guerres aux frontières. Mais pour ce moment-là où nous sommes, oui, la guerre vient de s'achever. Et puis, à l'intérieur du royaume, vous avez tout à fait raison de le souligner, nous sommes en monarchie de droit divin, c'est-à-dire que le roi est roi par la grâce de Dieu. Donc, toucher au système monarchique, c'est toucher aussi à la religion. Hein, il y a là une alliance indissociable.
Et en même temps, à cette époque, on assiste à une grande soif de connaissances.
Oui, tout à fait. Il y a d'abord des travaux essentiels qui sont les travaux de l'Académie des sciences, qui publie très régulièrement ses propres analyses, si vous voulez. Et puis, il y a surtout ce qui commence à exister, et ça c'est quelque chose d'essentiel à l'époque, c'est l'histoire des dictionnaires. Parce que l'encyclopédie ne se comprend pas si on ne met pas cet ouvrage à l'intérieur d'une histoire qui est toute neuve et qui est l'existence des dictionnaires.
Donc les personnes un peu lettrées ont un engouement pour les dictionnaires, achètent des dictionnaires.
On les lit aussi beaucoup dans les maisons de lecture, hein, des sortes de bibliothèques publiques. Et on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir et qui me semble essentiel, c'est que la nouveauté de l'encyclopédie, elle est aussi là. C'est-à-dire d'avoir osé faire un dictionnaire de l'ensemble des connaissances humaines.
Osé, effectivement.
Ah oui, et si vous voulez, ils ont eu quelques prédécesseurs, très peu, et le premier grand dictionnaire en français que nous ayons n'a que 60 ans de vie avant l'encyclopédie.
Marie Le Katsiomis, on poursuit tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, on part à la rencontre de Diderot, un matin d'octobre 1747 à Paris, alors qu'il court rejoindre sous la pluie d'Alembert, qui est au café de la Régence. Tout de suite, Diderot et le combat de l'encyclopédie, un texte de Priscille Lamure, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Haute-Picon.
Quelle pluie! Un temps à défriser les perruques. Mais allez, dans la vie, il faut savoir se mouiller. Pardon.
Wow!
Doucement, cocher. N'écrase pas un homme qui travaille au progrès de l'esprit humain et à la grandeur de la France. Ah, après toutes ces années à étudier les mathématiques et les belles lettres, à courir d'une besogne ingrate à l'autre pour nourrir ma famille. Moi, fils d'un artisan de province, j'ai enfin l'occasion de participer aux lumières de mon siècle. Ce nouveau dictionnaire me permettra de propager des idées nouvelles dans tout le royaume et au-delà. Tel un flambeau guidant les générations futures à travers les ténèbres de l'ignorance et du fanatisme. Mais je m'aventure sur un chemin bordé de ronces et d'épines. Il va me falloir du courage. Le courage d'oser.
En ce matin d'octobre 1747, Denis Diderot arpente les ruelles de Paris. Sous sa chevelure ébouriffée et ruisselante, il a le visage riant, l'œil vif. Depuis près de 2 ans, ce jeune polygraphe, connu pour ses talents de traducteur, travaille aux côtés du mathématicien Jean Leron d'Alembert, à l'adaptation française d'un dictionnaire anglais à succès, la Cyclopédia d'Ephraim Chambers. À la tête de cette entreprise commerciale, 4 libraires éditeurs parisiens, nantis d'un privilège royal, les sieurs Le Breton, Briasson, David et Durand. Après quelques déboires avec leur ancien collaborateur, ils viennent de confier au jeune Diderot la lourde tâche de diriger la publication du dictionnaire. Quant à D'Alembert, éminent membre de l'Académie des sciences et caution scientifique de l'ouvrage, il a été nommé responsable de la partie mathématique. Les 2 nouveaux directeurs doivent désormais joindre leurs forces pour mener à bien cet ambitieux projet. Ils se sont donné rendez-vous à 2 pas du Palais Royal, dans l'un des cafés littéraires les plus courus de la capitale, le Café de la Régence. Sous la houlette de ces 2 brillants esprits, le projet initial de traduction de la Cyclopédia est sur le point de prendre une toute autre ampleur.
Ah, D'Alembert,
vous êtes là ?
Diderot, venez vous asseoir. Je vous ai gardé cette chaise près du poêle. Je suis frigorifié. J'ai commandé des litres de café.
Et moi, je suis en nage. Depuis quelques jours, ma cervelle est en ébullition. Quand je pense aux opportunités que nous offre ce dictionnaire, je jubile, et l'instant d'après, je me pétrifie en songeant à l'ampleur de la besogne.
Mon cher collègue, qu'allons-nous faire dans cette galère ?
C'est vrai que cet ouvrage donne le vertige. Nous devons composer un dictionnaire digne de notre siècle, à la pointe du progrès. Donner au public autre chose à se mettre sous la dent que le très catholique dictionnaire de Trévoux, qui colporte quantité de préjugés, de superstitions ridicules.
Que l'on retrouve abondamment dans l'encyclopédia. Mais maintenant que nous avons les rênes en main, au diable cette traduction truffée d'erreurs et de lacunes.
Ah, j'aime vous l'entendre dire. Un peu de café ?
Volontiers. Si nous voulons tirer le peuple de l'ignorance, nous devons faire plus que lui fournir une accumulation de connaissances. Il faut lui donner des clés pour apprendre à penser plus librement, à développer un esprit critique. Faire un dictionnaire raisonné, qui devienne une arme pour combattre la tyrannie, les injustices.
Je suis de tout cœur avec vous, Diderot. Il est temps de rendre la philosophie populaire. Mais nous risquons gros. Comment déjouer la censure royale ?
Eh bien, en jouant d'habileté, de subterfuge. Il faudra déguiser notre discours, dissimuler nos pointes les plus acérées, nos critiques les plus virulentes, dans des articles en apparence anodins et inoffensifs. User d'ironie, de sous-entendus.
Ah, vous proposez de faire de notre dictionnaire un jeu de cache-cache ?
Exactement. Nous ferons comprendre au lecteur qu'il doit lire entre les lignes, tout en nous assurant que le censeur ne puisse rien nous reprocher.
Diderot et d'Alembert s'attellent à cet audacieux ouvrage qui sera composé de plusieurs volumes d'articles et de planches illustrées. Ils l'ont baptisé « Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ». Ils courent les cafés et salons en quête de nouveaux collaborateurs, savants et hommes de lettres. Parmi eux, le naturaliste Daubenton, le grammairien Dumarsais ou encore Jean-Jacques Rousseau, qui se consacrera à la musique. Le chantier est lancé. Mais à l'été 1749, Diderot est incarcéré à la prison de Vincennes sur ordre de Louis XV, après la publication de sa « Lettre sur les aveugles », jugée contraire à la religion, à l'État et aux bonnes mœurs.
Me voilà dans de beaux draps. Emmené de force comme un bandit, emprisonné sans jugement sur simple lettre de cachet. Voilà ce qu'il en coûte à qui ose remettre en cause l'existence de Dieu dans un pays de monarchie absolue et de droit divin. J'avais pourtant pris mes précautions. Publié ma lettre anonymement. C'était sans compter la police et ses vils mouchards. Combien de temps vont-ils me laisser croupir ici ? J'ai une encyclopédie à publier, moi. Les libraires doivent être fous de rage.
Considéré comme un auteur dangereux, Diderot ne devra sa libération, après 3 mois d'enfermement, qu'aux incessantes suppliques des libraires de l'encyclopédie. Ils se remettent aussitôt à la tâche et lancent bientôt une grande campagne de souscription destinée à soutenir financièrement la publication de l'ouvrage. Mais, dès son lancement, le projet suscite l'hostilité des ennemis des Lumières, en premier lieu le parti dévot, et en particulier les jésuites, auteurs du très populaire « Dictionnaire de Trévoux ». Malgré ces attaques par voie de presse, les souscripteurs de l'encyclopédie affluent, à la grande satisfaction d'André-François Le Breton, le libraire chargé de l'impression de l'ouvrage. Au cours de l'été 1751, alors que le premier tome de l'encyclopédie vient de paraître, il reçoit Diderot et d'Alembert, rue de la Harpe, dans son atelier d'imprimerie.
Mes amis, entrez, prenez place. J'ai ici un petit vin de Malaga dont vous me direz des nouvelles.
Merci.
Alors ça y est, j'imagine que les premiers volumes ont été acheminés maintenant.
Je suis impatient de connaître le sentiment des lecteurs.
Pour le moment, messieurs, tout se présente sous les meilleurs auspices. Et j'ai bien l'honneur de vous annoncer que nous venons d'atteindre les 1500 souscriptions.
1500 ? Déjà ? Je ne m'attendais pas à un succès si rapide.
Ça dépasse tous nos espoirs.
Nous avons dû porter le premier tirage à plus de 2000 exemplaires pour répondre à la demande. Mes ouvriers travaillent sans relâche, du matin au soir. Ça me coûte cher en chandelles.
Eh bien, il semble que les cris d'orfraie des jésuites n'ont pas fait détaler tous nos souscripteurs.
Je crois même qu'à force de calomnier l'ouvrage dans leur gazette, nous ont fait de la publicité malgré eux.
Ils doivent s'en mordre les doigts.
Ils n'ont pas tort de se faire du mauvais sang. Dans quelques années, notre encyclopédie sera sur tous les guéridons. Et plus personne n'achètera leur dictionnaire suranné. Toutefois, messieurs, il serait judicieux à l'avenir de ménager ces dévots. Ils sont puissants. Et je ne tiens pas à ce qu'ils continuent de nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, Diderot, quand pensez-vous pouvoir me fournir la matière définitive du deuxième volume ? Nos dépenses sont considérables. Il faut accélérer la cadence. Selon mes calculs, en mettant les bouchées doubles, nous pourrions le mettre sous presse dans 3 mois.
3 mois ? Mais comment voulez-vous ? Écrire des articles neufs, rendre compte des derniers résultats de chaque science, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Je passe mes journées à courir après les rédacteurs pour qu'ils me remettent leurs manuscrits dans les temps. Après quoi, je dois tout relire, pour chasser les erreurs, compléter.
Parfois, tout réécrire, tant le contenu laisse à désirer.
Sans compter les rédacteurs qui se sont engagés à produire des articles et qui nous lâchent du jour au lendemain. Mais d'ailleurs, Le Breton, j'attends toujours l'article que vous m'avez promis sur l'encre et son usage en imprimerie.
Mais il est en route, monsieur. Vous pourrez bientôt en disposer. Et maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, je vous congédie. Vous avez du travail et moi, j'ai des tirages à faire. Quant au prochain volume, Diderot, je le veux dans moins de 3 mois.
Trois mois, il en a de bonnes. J'y consacre déjà tout mon temps, toute mon énergie. Même en continuant à ce train de forçat, c'est tout bonnement irréalisable. Je dois trouver de nouveaux collaborateurs, et vite, des dizaines de rédacteurs. Il faut que je lève une véritable armée d'encyclopédistes.
Diderot s'apprête justement à faire la rencontre du chevalier de Jaucourt. Ami de Montesquieu et de Voltaire, cet homme de lettres et de sciences mène une vie rangée, entièrement vouée à l'étude. Après la lecture du premier volume de l'encyclopédie, il a spontanément proposé ses services à Diderot. Séduit par la plume érudite du chevalier, il le reçoit quelques jours plus tard dans son cabinet de travail, au sol jonché de feuilles volantes, de brouillons chiffonnés et de livres empilés.
Cher monsieur, je vous demande pardon de vous accueillir en robe de chambre. Je travaille depuis 6 heures ce matin, je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre le nez dehors. Je croule littéralement sous la besogne.
Mais ne vous donnez pas tant de peine, je peux rester debout.
Attendez, vous me croirez ou non, mais il y a un fauteuil sous ce fatras. Voilà. Je vous en prie, asseyez-vous.
Avez-vous lu les textes que je vous ai envoyés ?
Avec grand intérêt. Votre article Anatomie est excellent. Et il atteste d'une connaissance aiguisée de la médecine.
Et disons que c'est ma spécialité. Voyez-vous, j'ai passé 20 ans de ma vie à rédiger un grand dictionnaire universel de médecine, en 6 volumes.
C'est prodigieux.
Hélas, il n'a jamais vu le jour.
Et pourquoi donc ?
Parce que le manuscrit de cet ouvrage a sombré au fond des eaux, avec le navire qui le conduisait en Hollande où il devait être imprimé. Je n'en ai conservé aucune copie intégrale, seulement des brouillons, des notes, des esquisses. Bah.
Ce que vous me dites me déchire le cœur.
Alors, quand j'ai découvert le projet de votre encyclopédie, j'ai su qu'il fallait que je mette à votre disposition les débris de mon dictionnaire. Que tout ce labeur n'ait pas été vain et inutile.
Et vous avez frappé à la bonne porte. Toutes vos contributions seront plus que bienvenues. Il nous reste tant d'articles de médecine à rédiger.
Alors, si je puis me rendre utile, j'écrirai ce que vous voudrez. Politique, religion, littérature. Je suis maintenant rompu à l'exercice de la compilation et j'ai la chance d'avoir à ma disposition une bibliothèque très fournie.
Admirable. Et combien d'articles pensez-vous pouvoir me soumettre ?
Écoutez, je n'ai ni femme ni maîtresse et c'est dans le silence de ma bibliothèque que je trouve mon plus grand plaisir. Votre encyclopédie me donnera l'occasion de participer au progrès humain. Alors disposez de moi autant qu'il vous plaira.
Le chevalier de Jaucourt se met au travail. Les nombreux articles qu'il rédige viennent étoffer le deuxième volume de l'encyclopédie, qui paraît en janvier 1752. Mais cette publication ne fait que raviver l'hostilité du parti dévot, qui lance une nouvelle offensive. Le prétexte est tout trouvé. L'abbé de Prades, un des rédacteurs de l'encyclopédie, vient d'être condamné pour avoir soutenu une thèse de théologie jugée hérétique. Profitant du scandale, jésuites et jansénistes s'allient pour obtenir la condamnation de l'encyclopédie. Le 7 février 1752, ils obtiennent gain de cause. Sur ordre de Louis XV, les deux premiers tomes de l'encyclopédie sont interdits à la vente. Et c'est Chrétien Guillaume de Malesherbes, directeur de la librairie royale et à ce titre responsable de la censure des livres imprimés, qui est chargé de faire saisir les ouvrages prohibés. Mais ce magistrat éclairé fera tout son possible pour sauver l'encyclopédie. À l'annonce de la sentence, Diderot et d'Alembert se réunissent en catastrophe chez le Breton.
Comment ça, interdite? Alors ça, c'est un peu fort.
La fourberie des jésuites n'a pas de limite.
Oui, ils ont soigneusement épluché l'article de l'abbé de Prades. Maintenant, ils accusent l'encyclopédie d'être une bible de l'athéisme, une œuvre diabolique.
Et l'abbé, où est-il? En prison?
Il se cache. Il a prévu de fuir, d'aller à Berlin.
Et on ferait bien d'en faire autant si on ne veut pas finir à la Bastille.
C'est vraiment ce que vous voulez, d'Alembert? Déserter?
Mais non, continuons l'encyclopédie hors de ce maudit pays. En Prusse, on aurait la protection de Frédéric II.
Silence!
Il vient nous arrêter.
C'est vous! Ouvrez! C'est Malesherbes!
Et ouvrez-lui, le Breton!
Oui, j'y vais!
Messieurs, je serai très bref, il ne faut pas qu'on me voie ici. Où sont les volumes de l'encyclopédie?
Les deux premiers tomes? Mais ils ont tous été livrés au souscripteur.
Alors ils sont sauvés. La police sera là d'un moment à l'autre, avec ordre de les saisir et de les détruire.
Oh, je vais cacher mes exemplaires personnels.
Et pouvez-vous nous éclairer sur la suite des événements? Doit-on préparer son baluchon pour aller passer le reste de l'hiver sur la paille humide d'un cachot?
D'Alembert, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous puissiez mener à bien votre ouvrage. Mais pour vous épargner de plus grands malheurs, les scandales autour de l'encyclopédie doivent cesser.
Vous n'allez donc pas révoquer le privilège de publication?
Non, je ne céderai pas aux intimidations des jésuites. Mais pour calmer les esprits, j'ai exigé que les prochains volumes soient intégralement relus et censurés par un collège de théologiens scrupuleux.
Autant nous demander directement d'imprimer le contraire de ce que l'on pense.
Dans la rue, les torches.
On vient.
L'avenir de l'encyclopédie est entre vos mains. Je vous laisse.
J'enrage.
Allons, d'Alembert, reprenez-vous, voyons. Tout n'est pas perdu. En attendant que passe l'orage, nous continuerons de préparer les prochains tomes.
Dans ces conditions, jamais. On nous traite de sectes dangereuses, de faux savants. L'encyclopédie est traînée dans la fange. Merci bien, j'ai ma dignité.
Acharnez-vous si vous voulez, mais ce sera sans moi.
D'Alembert m'a lâché. Il n'a pas supporté l'affront de cette condamnation. Il se dit humilié, son honneur entaché, et maintenant il refuse d'écrire la moindre ligne pour l'encyclopédie tant qu'il n'aura pas reçu d'excuses publiques. Je risque de ne pas le revoir de si tôt. Eh bien, je n'ai guère d'autre choix que de continuer seul. J'ai des bouches à nourrir, moi. Et tant que l'encyclopédie est interdite, ces grippe-sous de libraire suspendent mes maigres honoraires. Je dois me sortir au plus vite de ce bourbier. Je vais écrire à la marquise de Pompadour qui nous a toujours encouragés. Elle qui déteste les jésuites, elle acceptera peut-être de nous aider.
Grâce à la protection de la favorite du roi et de Malesherbes, la sanction est vite levée. L'enthousiasme croissant du public pour l'encyclopédie, dont la condamnation a accru la renommée, a eu raison de la rancœur de d'Alembert, qui accepte de reprendre le travail avec Diderot. À partir de 1753, ils poursuivent la publication au rythme effréné d'un volume par an, attirant une foule de nouveaux contributeurs, souvent prestigieux, comme Voltaire ou Montesquieu. Dans cette effervescence, le contenu de l'ouvrage ne cesse de s'étoffer. Mais après l'attentat de Damiens contre Louis XV, la censure royale se durcit. Et bientôt, une nouvelle condamnation porte un coup d'arrêt brutal à l'encyclopédie. Au début de l'année 1759, l'ouvrage est condamné par le Parlement à être publiquement lacéré et brûlé par le bourreau. Blême et fatigué, Diderot se rend, avec le Breton, à la convocation de Malesherbes.
Entrez, messieurs. D'Alembert n'est pas avec vous?
Non, il est occupé ailleurs. Vous savez, depuis qu'il a été reçu à l'Académie française...
Bon. Le Breton, Diderot, je n'irai pas par quatre chemins. Depuis la condamnation du Parlement, l'encyclopédie est sur la sellette. Les dévots réclament à corps et à cri l'arrêt ferme et définitif de sa publication et me soumettent à des pressions de plus en plus fortes. Je n'ai d'autre choix que de m'y résoudre.
Et par pitié, Malzerbe, ne prononcez pas une sentence aussi injuste.
Miséricorde, ce serait nous exécuter, nous exposer aux pires poursuites.
J'ai toujours eu à cœur de protéger l'encyclopédie. Mais depuis l'attentat contre Sa Majesté, votre ouvrage est dans le collimateur. Les rumeurs de conspiration vont bon train. Je ne peux plus endosser la responsabilité de vous laisser continuer, je risquerais d'y perdre ma place.
Alors ainsi s'achèvent 15 années de travail pour le progrès des sciences et des arts. N'y a-t-il rien que nous puissions faire ?
Je regrette, Diderot. J'ai déjà rédigé l'arrêt ordonnant la révocation du privilège. Il sera présenté demain matin au Conseil d'État du roi. Et dès lors, l'encyclopédie ne pourra plus être imprimée ni vendue dans le royaume de France. Quant à vous, Le Breton, avec vos associés, vous serez condamné à rembourser la somme de 72 livres à chacun de vos souscripteurs pour les volumes non parus.
72 livres ? Mais nous avons plus de 4000 souscripteurs. Il faudrait débourser... près de 300 000 livres. Jamais nous ne pourrons réunir une telle somme. De grâce, monsieur, vous vous apprêtez à mettre 4 familles de libraires sur la paille.
Pardonnez-moi, Malzerbe, mais si je ne m'abuse, seuls les articles de l'encyclopédie ont été condamnés, pas les volumes d'illustrations qui n'ont toujours pas été publiés.
Il est vrai.
Ne pourrait-on pas dédommager les souscripteurs en leur fournissant nos volumes de planches? Une grande partie a déjà été gravée.
Ma foi, c'est vrai. Malzerbe, qu'en dites-vous?
Eh bien, je vais étudier la question, mais je ne peux rien vous promettre. Pour l'heure, il y a plus urgent. Diderot, la perquisition de votre domicile a été ordonnée pour y faire saisir tous les manuscrits et documents relatifs à l'encyclopédie.
Comment? Mais quand ça?
Demain matin, dès que la révocation du privilège sera approuvée.
Mais comment vais-je déménager tous mes papiers en moins de 24 heures? Je n'ai nulle part où les cacher.
Je ne peux pas les prendre chez moi, ils ne seraient pas en sûreté.
Ces tourments ne cesseront donc jamais.
Diderot, écoutez. Dans une heure, une voiture attendra au pied de votre porte avec un homme de confiance qui vous aidera à charger vos cartons. Je les cacherai dans la cave de mon hôtel. On ne viendra pas les y chercher.
Merci.
Voilà, les manuscrits de l'encyclopédie sont sauvés. Mais sans privilège, impossible de faire imprimer les derniers tomes en France. Faut-il accepter les offres des imprimeurs étrangers? S'expatrier pour achever l'ouvrage comme le voudrait D'Alembert? Non, c'est impossible puisque les manuscrits sont la propriété des libraires. Je ne vois qu'une solution. Convaincre Le Breton de poursuivre l'impression clandestinement, malgré le danger.
Septembre 1759, alors que le pape Clément XIII vient à son tour de condamner l'ouvrage, Malzerbe vole de nouveau au secours des encyclopédistes. En leur accordant un nouveau privilège pour la publication d'un recueil de 1000 planches illustrées, il sauve les libraires de la banqueroute et les autorise à remettre leur presse en service. Pour Diderot et Le Breton, c'est l'occasion ou jamais de poursuivre en cachette la préparation des derniers volumes. Mais D'Alembert ne l'entend pas de cette oreille. Pour tenter de les réconcilier, le libraire a convié à dîner les deux directeurs ainsi que le chevalier de Jaucourt.
Vous avez vu que le bref du pape a été placardé dans les églises ?
Il faudrait pour cela que j'y mette les pieds, mon cher Jaucourt.
Les bonnes ouailles sont sommées d'apporter aux prêtres de leur paroisse leur volume de l'encyclopédie, pour qu'ils y soient brûlés.
Eh bien maintenant, nous savons avec quoi tous les curés du royaume vont se chauffer l'arrière-train cet hiver. Jaucourt, passez-moi la bouteille de ratafia, voulez-vous ?
Je viens de vous servir.
Nos détracteurs doivent exulter. Ils ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient. La destruction de l'encyclopédie.
Vous enterrez bien vite notre ouvrage, D'Alembert. Nous avons perdu notre privilège, mais nous ne laisserons pas nos ennemis remporter la bataille.
Parce que vous songez sérieusement à publier la suite de l'encyclopédie ?
Parfaitement. Nous le devons à tous les rédacteurs qui y travaillent jour et nuit, et à nos souscripteurs qui se retrouvent malgré eux avec un dictionnaire incomplet. Je ne renoncerai pas à achever les 10 derniers volumes.
Alors il faut les faire imprimer à l'étranger, en Hollande, en Prusse, je le dis depuis des années.
Ah non, D'Alembert, vous n'allez pas recommencer, je m'y oppose fermement. Voyez comme les ouvriers vous sollicitent à tout bout de champ pour déchiffrer vos notes.
Vous demandez un éclaircissement. Si vous n'êtes pas sur place pour surveiller le travail, votre encyclopédie vous reviendra, pleine de fautes et d'erreurs grotesques.
Et moi, je le répète, je ne quitterai pas Paris.
Non, messieurs, il n'y a pas à tergiverser. Nous continuerons l'ouvrage à Paris, dans mon atelier. Et pour que personne ne puisse nous soupçonner de l'avoir imprimé, nous le publierons anonymement, sous une adresse étrangère.
Ce plan sent le fagot. Nous sommes entourés de délateurs qui attendent la première occasion de nous faire jeter en prison. Comment allez-vous expliquer que la plus grande imprimerie de Paris tourne à plein régime alors que le privilège d'impression de l'encyclopédie lui a été retiré ?
Malesherbes nous a donné l'autorisation d'imprimer les volumes de planches. C'est une excellente couverture.
Mais oui, allons d'Alembert. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires. Et nous attendrons d'avoir achevé l'impression des 10 volumes pour les livrer au public, d'un seul bloc. D'Alembert, où allez-vous ?
Je m'en vais, j'en ai assez entendu. Messieurs, je regrette, je ne peux vous suivre dans cette voie. Courir un tel danger, risquer de sacrifier ma réputation, ma liberté. Je vous fournirai mes derniers articles de mathématiques, mais j'abandonne définitivement la direction de l'encyclopédie.
Cette fois-ci, D'Alembert ne reviendra pas. À vrai dire, je m'y attendais. Tout le monde quitte le navire. Rousseau, Voltaire, Turgot, Marmontel. Je suis le capitaine d'un équipage dispersé, indiscipliné, dont le moral est tombé à zéro. Pourtant, je dois affronter la tempête. Je ne laisserai pas l'encyclopédie sombrer. Je ne ferai pas ce plaisir aux faquins qui veulent nous couler. Heureusement, Jaucourt m'est resté fidèle. Il m'a proposé de prendre en charge la préparation des derniers tomes d'articles pour que je puisse me consacrer à l'édition des volumes d'illustration. Sans lui, c'en serait fini de l'encyclopédie.
À partir de 1762, Diderot se lance à corps perdu dans la préparation des volumes de planches. De son côté, le chevalier de Jaucourt se claquemure dans sa bibliothèque 13 heures par jour. Pendant ce temps, rue de la Harpe, une cinquantaine d'ouvriers s'attellent officiellement à l'impression du recueil de planches illustrées, tandis que la fabrication des volumes interdits se poursuit dans la clandestinité. À la fin de l'année 1764, la plupart d'entre eux sont déjà imprimés et attendent, cachés, le moment propice d'être révélés au public. Diderot et Jaucourt se rapprochent du but.
Ah, Diderot, je vous attendais.
Bien le bonjour, Jaucourt. Le Breton n'est pas là ?
Pas vu de la matinée. Il n'y a que le prot en train de surveiller les ouvriers.
Je suis fourbu. J'ai passé la journée d'hier à galoper d'un atelier à l'autre et j'ai veillé une partie de la nuit pour finir de corriger les planches sur la fabrication des épingles. C'est un outil tout à fait fascinant. Figurez-vous que ce petit ouvrage n'éprouve pas moins de 18 opérations de fabrication avant d'entrer dans le commerce.
18 ? Un vrai bijou. Montrez voir. Ces illustrations sont remarquables.
Elles décrivent un atelier d'épinglier, avec les différentes machines et outils nécessaires à la fabrication des épingles. Mmh. Voyez comme les gestes des ouvriers sont minutieusement décomposés. Il y a le dresseur qui coupe les fils de laiton. L'empointeur qui fait la pointe à chaque bout. Mmh. Le repasseur qui affine derrière, puis le jaunisseur. Le sécheur. Le vanneur. Ces hommes-là sont capables de produire plus d'une centaine de milliers d'épingles par jour. Oh,
c'est faramineux. Et dire que tous ces métiers sont méprisés. Il était temps de donner enfin à tous ces arts mécaniques leur lettre de noblesse.
Et je suis convaincu que c'est en rendant accessible à tous ces savoir-faire, en révélant les ficelles du métier, que nous favoriserons l'invention, le progrès des arts. Mmh. L'avenir nous le dira. Et vous alors, comment avancent vos articles ?
Eh bien, je viens tout juste d'achever celui sur la traite des esclaves d'Afrique, ce qui n'était pas une mince affaire. Voulez-vous le relire ?
Mais certainement. C'est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine. Que les colonies européennes soient donc plutôt détruites que de faire tant de malheureux. Bravo, Jaucourt ! Je ne crois pas qu'on ait jamais publié dans notre pays un texte dénonçant cette barbarie avec tant de fermeté et d'éloquence.
Si vous n'y voyez rien à redire, il manque juste votre paraphe et je l'envoie à la composition typographique.
Je vous emprunte votre plume. Et voilà.
L'avant-dernier tome est prêt à partir sous presse. Le dernier est en grande partie composé. Mon cher Diderot, nous arriverons bientôt au bout de nos peines.
Oui. Plus que quelques mois à ce rythme et nous pourrons crier victoire. Avant que je n'oublie, je voulais relire une formule que j'ai écrite dans mon article sur les Sarrasins.
Sarrasins, c'était dans le tome 14, il me semble. Ça fait un moment qu'on l'a imprimé.
Oui, mais le Breton doit toujours avoir le recueil des preuves dans son cabinet. Je vais voir.
Où a-t-il bien pu le fourrer ? Ah, le voici. Volume 14. R. S. Saison. Santé. Sarrasin. Qu'est-ce que c'est que cette encre noire ? Mais c'est... C'est l'écriture de Le Breton. Il s'est permis d'annoter les épreuves que j'avais approuvées. Et de rayer la conclusion de mon article, le passage où j'affirme que la religion s'avilit à mesure que la philosophie s'accroît. Les pages sont pleines de ratures. Et les autres volumes ? Sur combien de tomes s'étend ce carnage ? Ah non, mon article sur l'édit de Nantes tronqué. Et l'article de Jaucourt sur la religion protestante entièrement biffé. Le vandale, la brute. Il a charpenté les articles dans notre dos. Aucun des volumes n'est épargné. Des années de labeur. Mon encyclopédie, châtrée, dépecée, mise en lambeaux. Ce n'est plus qu'un insipide tas de rognures.
Redoutant la justice royale, l'imprimeur a amputé tous les passages qu'il jugeait dangereux. Des coupes et des arrangements qui s'étendent sur près de 10 000 pages. Devant l'ampleur des ravages et face à l'impossibilité de réimprimer les articles mutilés, Diderot n'a d'autre choix que de ravaler sa colère. Un an plus tard, à la fin de l'année 1765, les 10 derniers volumes, enfin achevés, sont livrés aux souscripteurs de l'encyclopédie. Sur la page de titre, les noms de Diderot et d'Alembert ont disparu et celui de Le Breton a laissé place à la mention fictive « imprimée à Neuchâtel ».
Et voilà, le grand et maudit ouvrage est terminé. Les libraires se frottent les mains, les souscripteurs sont ravis. Moi, je suis épuisé, laminé par 20 années de travaux infinis et de persécutions. Mais je suis resté fidèle à ma devise, plutôt s'user que se rouiller. Je me suis battu, même dans les heures les plus sombres. Je n'ai jamais renoncé. Et aujourd'hui, l'encyclopédie triomphe. On la lit dans toute l'Europe. Il n'y a plus qu'à espérer qu'avec le temps, cet ouvrage produise une révolution dans les esprits et que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n'y gagneront pas. Alors, nous aurons servi l'humanité.
Denis Diderot et le combat de l'encyclopédie de Priscille Lamure avec Diderot, Benoît Marchand, D'Alembert, Xavier de Guibon, Le Breton, Stéphane Butel, Jaucourt, Jean-Charles Dizazzo, Malesherbes, Yvon Martin. Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Pierre Lemaire, assistante à la réalisation, Sophie Pierre, réalisation, Sophie Haute-Picon. Marie Le Cat-Siomis, nous avons donc quitté Denis Diderot en 1765. Il est épuisé, on l'a entendu. Il est heureux aussi, hein, parce que cette encyclopédie où il a consacré 20 ans de sa vie est un immense succès. Donc en 1765, ils ont gagné leur pari.
Oui, tout à fait. D'autant que, si vous le voulez bien, on va amplifier un peu la durée. Parce qu'en fait, c'est en 1772.
Oui, parce qu'il y a encore les recueils de planches.
Mais il y a les planches, et Diderot est le principal artisan des planches. C'est quelque chose sur lequel, il me semble, il faut insister, parce que c'est un travail colossal. Vous avez peut-être vu ce qu'ont été ces planches de l'encyclopédie.
Oui, très belles planches.
Magnifiques, auxquelles les dessinateurs, les graveurs ont apporté leur talent, et sont véritablement les plus belles planches du XVIIIe siècle en matière de savoir, et non pas simplement d'illustrations romanesques ou tout ce qu'on voudra. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc Diderot est attelé au travail jusqu'en 1772. Contrairement à ce qu'on a pu imaginer, il n'a pas du tout arrêté de s'occuper des volumes interdits, des volumes qu'on appellera ceux du dictionnaire, puisque c'est des articles, mais il continue jusqu'au dernier à travailler sur ces volumes, et on a pu mettre au jour encore récemment toute une série d'articles qu'il a écrits, qu'il n'a pas signés. Vous savez que c'est une des énigmes de l'encyclopédie, que le fait qu'à un moment donné, lorsqu'elle est interdite, comme vous l'avez parfaitement bien montré, des gens continuent à écrire, mais anonymement. Ce sera le cas de Diderot, ce sera le cas de D'Holbach, grand historien de la chimie et philosophe lui-même, qui ne signera plus rien. Et ça joue un rôle important pour nous qui nous intéressons à l'encyclopédie, notamment parce que nous nous demandons, mais qui donc a pu écrire tous ces articles qui apparaissent avec la presque, j'exagérerai en disant ça, mais presque la seule signature qui serait celle de Jaucourt.
Oui, il faut absolument parler de ce
voilà.
Jaucourt, parce
on
que
va parler de Jaucourt.
On parle toujours de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais c'est aussi ce chevalier de Jaucourt, personnage assez étonnant, attachant,
tout à fait.
Ermite qui vit dans son cabinet et qui a écrit énormément d'articles de l'encyclopédie.
Vous avez tout à fait raison, c'est un personnage extrêmement attachant. Jaucourt est un protestant qui appartient à une des grandes familles protestantes de la noblesse française. C'est un polygraphe extraordinaire qui travaillait, Diderot le raconte, entouré de secrétaires à qui il dictait
qu'il payait de sa poche aussi.
Qu'il payait de sa poche, exactement. Voilà, c'est un homme qui a été dans l'oblation à l'écart de l'encyclopédie. D'ailleurs, Diderot le remercie dans le dernier avertissement, tome 8 de l'encyclopédie. Si nous avons vu...
Si nous avons poussé le cri de joie du matelot lorsqu'il aperçoit la terre, c'est à monsieur le chevalier de Jaucourt que nous le devons.
Exactement.
C'est un bel hommage, ça.
Ah oui. Je me permettrai de dire que Jaucourt, à sa façon, non seulement a été un extraordinaire scripteur de l'encyclopédie, écrivain lui-même, mais qu'il a protégé l'encyclopédie. Parce que, ça nous le savons notamment grâce à Voltaire, Jaucourt appartient à une des plus vieilles familles de la noblesse française. Et le fait qu'il ait signé jusqu'au bout ses articles est une façon aussi probablement de montrer l'importance de sa présence dans l'encyclopédie. Il est extrêmement difficile d'interdire un ouvrage totalement, c'est-à-dire de réquisition, etc., auquel le nom de Jaucourt est associé. En ce sens, je me permets de dire que je pense qu'il a aussi, par sa propre signature et présence, protégé l'encyclopédie.
Marie Lecas Thiomis, en quoi est-ce qu'on peut dire que cette encyclopédie, donc de Diderot, d'Alembert et Jaucourt, est-elle totalement nouvelle, inédite et voire révolutionnaire?
Oui.
En quoi est-elle le symbole aussi du siècle des Lumières? C'est ce qu'on dira plus tard.
Oui, tout à fait. Écoutez, c'était d'abord quelque chose d'inouï à l'époque. Inouï pourquoi? D'une part parce que c'est le plus grand dictionnaire de l'époque. Deuxièmement, et c'est aussi important, c'est un dictionnaire, et ça c'est l'idée de Diderot et de D'Alembert aussi je pense, c'est un dictionnaire pluriel. Quand nous parlions tout à l'heure du dictionnaire anglais, Ephraim Chambers avait fait son dictionnaire tout seul, en empruntant dans les livres qui l'environnaient, etc. Tandis que là, on fait appel aux savants. Et ce sont les savants qui viennent témoigner de leurs connaissances dans l'ouvrage. Vous avez parmi les plus grands savants du siècle, Daubenton, Bordeaux, D'Alembert lui-même d'ailleurs, Diderot pour ce qui regarde la philosophie, et tous ces très très grands personnages, tous ces très grands savants qui se réunissent pour donner leur propre connaissance à cet ouvrage. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant.
Donc dans tous les domaines, hein, la science, la philosophie, les arts, la politique, la religion. Et on y met aussi à égalité tous les savoirs, même des savoirs non nobles, comme on disait à l'époque, la boulangerie, la coutellerie, d'ailleurs, la coutellerie, c'était le métier du père de Diderot, la chaudronnerie, la maroquinerie. C'est une idée donc importante de mêler tous les savoirs comme
c'est ça. C'est une idée très importante, vous avez tout à fait raison de le souligner. Et c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va faire que l'encyclopédie sera et va être exactement le dictionnaire de toutes les inventions. Ce que nous avons entendu tout à l'heure montrait l'importance de l'article épingle, épingle, épinglier. C'est la totalité des métiers qui sont rendus nobles dans une certaine mesure dans l'encyclopédie. Et Diderot revient très souvent là-dessus. D'Alembert aussi, d'ailleurs. Ils sont très, très attachés à l'idée de transmettre non seulement les arts, les beaux-arts, comme on les appelle, mais de transmettre les arts et métiers.
Comment expliquer que cette encyclopédie a été autant persécutée par le pouvoir et par l'Église?
Oui,
en quoi était-elle si dangereuse, cette encyclopédie?
Je vais vous donner juste un petit exemple. Dans le premier tome de l'encyclopédie, il y a un article de Diderot qui s'appelle « Autorité politique » et qui commence ainsi. « Nul n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. »
Oui, c'est effectivement.
Bon. Alors, bien sûr, tout ça peut s'expliquer presque de façon tout à fait courtoise, mais quelque chose est dit qui est essentiel. Et permettez-moi d'insister sur le mot « nature », parce que le mot « nature » à l'époque revêt, ça a beaucoup changé, mais le mot « nature » à l'époque revêt un sens quasiment essentiel. Hein. Il y a ce qui est dans la nature et il y a ce qui n'y est pas. Et le droit de commander aux autres fait partie d'un droit qui n'est pas naturel.
Alors, c'est donc une apologie de l'esprit critique,
absolument.
Une confiance dans le progrès.
C'est absolument, c'est tout à fait ce que vous dites. L'encyclopédie, ce qu'elle a de plus fabuleux, et de nos jours mêmement, c'est son esprit critique.
Voilà. En quoi cette encyclopédie justement est moderne encore aujourd'hui pour nous?
Eh bien, je dirais presque qu'elle est plus que moderne, elle nous dépasse aujourd'hui, très largement. Parce que nous ne sommes pas aussi critiques. Quand nous le sommes un peu, nous avons droit à beaucoup de remontrances. Bon, nous le vivons sans arrêt. Et quand l'encyclopédie, si vous voulez, s'en prend aux pouvoirs établis, il est certain que les jésuites, qui sont les premiers à se dresser contre l'encyclopédie, les jésuites se dressent contre l'encyclopédie avant même qu'elle soit publiée. Il y a une campagne qui a été menée par les jésuites avant même la parution du premier tome pour expliquer que c'était vraiment très décevant à côté de cette grande encyclopédie anglaise qui faisait 2 tomes. Bon, on rappellera au passage que l'encyclopédie en fera 28, mais enfin, voilà. Et donc, ils vont déjuger dès le départ l'encyclopédie en montrant qu'elle a été simplement un pillage de leur propre dictionnaire, oubliant d'ailleurs que eux-mêmes, et D'Alembert va le rappeler, eux-mêmes n'avaient écrit un dictionnaire qu'en pillant le fameux dictionnaire de Furtière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ils vont mettre en cause véritablement l'ensemble des articles qui touchent à la religion dans l'encyclopédie. Ils ne sont pas les seuls. Leurs ennemis, les jansénistes, feront de même. Et au fur et à mesure que l'ouvrage va croître, on va voir apparaître d'autres ennemis, et notamment, vous l'avez signalé aussi, le clan des dévots à la cour. Alors, ils auront le soutien de Malesherbes. Vous avez fait entendre tout à l'heure ce geste magnifique de Malesherbes qui cache lui-même l'encyclopédie dans sa propre cave. Et peut-être vous dire aussi, ça me paraît aussi important, c'est que quand l'encyclopédie est arrêtée, on a entendu tout à l'heure les raisons pour lesquelles elle a été, on est à la lettre G, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à la moitié de l'alphabet. Donc pour Diderot, il était essentiel de continuer. Sans ça, il n'y avait même pas de dictionnaire. Laissons de côté les planches, il n'y avait rien. Et donc c'est cette volonté de continuer jusqu'au bout, jusqu'à la lettre Z, son dictionnaire, ce travail formidable, c'est cette volonté qui a permis à l'encyclopédie d'Alembert, ayant déserté, comme dira Diderot, c'est cette volonté-là qui a permis d'achever l'ouvrage.
Merci beaucoup Marie Lecat Tsiomis de nous avoir rappelé cette histoire de volonté justement. Je signale que l'intégralité des volumes de textes et de planches de l'encyclopédie a été mise en ligne sur un site internet dédié. Merci donc à vous Marie Lecat Tsiomis. Merci également à Audrey Ripouille qui a réalisé cette émission, assistée de Frédéric Martin, à la technique Loïs Moreau. Pour en savoir plus donc sur l'encyclopédie, sur Diderot, je conseille la lecture de ce livre passionnant que vous, Marie Lecat Tsiomis, avez écrit avec Alain Cernuski, Alexandre Guilbeault et Irène Passeron, « Oser l'encyclopédie, un combat des Lumières », édité chez EDP Sciences en 2017. Et plus récemment de vous, « La guerre des dictionnaires, le trait-vous aux sources de l'encyclopédie », édité au CNRS en 2023. Autant n'importe l'histoire est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous parlerai d'un épisode célèbre et sombre de l'histoire de France, quand en 1804, Bonaparte, alors premier consul, fait enlever le duc d'Enghien, prince de sang, et le fait exécuter dans les fossés du château de Vincennes. 1804, Bonaparte et l'exécution du duc d'Enghien, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.